Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette émission consacrée aux inégalités hommes-femmes. Je m'appelle Lilian.
Et moi, c'est Axel.
Et nous sommes étudiants à l'Université de Poitiers. Nous avons été amenés dans notre parcours universitaire à nous questionner sur le sujet de l'inégalité des sexes. Nous entendons par là que les femmes, ou tout du moins les personnes s'identifiant comme telles, subissent des inégalités. Si l'égalité des droits est garantie par la Constitution de la Ve République française, l'inégalité des faits persiste. J'entends par là que si les hommes et femmes possèdent les mêmes droits, ils ne possèdent pas forcément le même salaire, les mêmes promotions ou les mêmes opportunités de carrière. Les femmes subissent même parfois des différences de traitement ou des violences qu'elles subissent en raison de leur sexe. On parle alors de VSS, de violences sexuelles et sexistes. Une VSS peut désigner une violence verbale comme des insultes, mais aussi des violences physiques comme les agressions sexuelles. Comme vous pouvez l'imaginer, l'Université de Poitiers est également touchée par ces inégalités et ces violences. Mais en connaissez-vous les chiffres? Selon l'annuaire 2020-2021 de la mission Égalité de l'Université de Poitiers, plusieurs inégalités persistent dans notre université. Tout d'abord, l'étude note des différences liées au sexe parmi les étudiants et les étudiantes de l'Université de Poitiers. Sur 29 516 étudiants inscrits en 2020-2021, 56,6% sont des femmes. Cependant, la proportion d'hommes et de femmes diffère selon le domaine de formation. 74,4% des personnes inscrites en arts, lettres et langues sont des étudiantes. A l'inverse, elles ne représentent que 37,5% des personnes inscrites en sciences, technologies, santé. Nous pouvons observer ensuite que cette différence persiste parmi le personnel non enseignant de l'Université de Poitiers. Si 61,9% de ce personnel sont des femmes, cette proportion diminue au fur et à mesure que leur hiérarchie augmente. Ainsi, les femmes représentent 72,4% des titulaires de catégorie C, 58,7% des titulaires de catégorie B et 45,2% des titulaires de catégorie A. Enfin, cette différence est encore plus accentuée parmi le personnel enseignant de l'université, puisque 42,12% des maîtres de conférences sont des femmes, tandis que seuls 20,19% des professeurs des universités sont des femmes. C'est donc avec ces chiffres en tête que nous avons décidé de réaliser une investigation. L'idée de cette démarche est d'aller à la rencontre des personnes cachées derrière les statistiques afin d'obtenir leurs témoignages. Nous sommes donc partis à la rencontre de Virginie Laval, première présidente de l'Université de Poitiers, qui nous a expliqué son parcours en tant que femme jusqu'au plus haut poste de l'université. Nous avons par la suite recueilli le témoignage de Catherine Ranoux, chargée de mission égalité hommes-femmes, qui nous a expliqué la politique de l'université contre les inégalités des sexes. Enfin, nous sommes partis à la rencontre des étudiants, des étudiantes et du personnel de l'université pour les interroger au sujet des VSS. Mais commençons par interroger Madame la Présidente de l'Université de Poitiers. Bonjour Madame Laval et Madame Ranoux. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Nous sommes très honorés de pouvoir vous interviewer aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui sont les questions d'égalité hommes-femmes à l'Université de Poitiers. Mais avant toute chose, laissez-moi vous présenter. Madame Laval, vous avez été élue le 1er décembre 2020 première présidente de l'Université de Poitiers. Au moment du vote des représentants des conseils de l'université, votre liste Énergie d'avance pour notre université a obtenu une majorité. Vous êtes donc quasiment assurée de votre réélection à la présidence de l'université le 2 décembre prochain. Mais alors, quel a été votre parcours jusqu'au titre de présidente de l'Université de Poitiers?
Bonjour à tous les deux et merci de cette interview. Donc, ma carrière, elle débute en 1997, lorsque j'ai été recrutée maître de conférence à Paris Descartes. Je suis restée 4 ans à l'Université Paris Descartes et j'ai, sur mutation, réintégré l'Université de Poitiers en 2001 en tant que maître de conférence en psychologie. Et à partir de cet instant, j'ai pris de nombreuses responsabilités au sein de mon département. Je me suis consacrée aussi à l'écriture d'une habilitation à diriger des recherches pour passer professeur des universités. Et j'ai été promue en 2009. Une fois professeure des universités, j'ai pris mes responsabilités. Donc d'abord responsable du département de psychologie. Ensuite, j'ai intégré l'UFR SHA en tant qu'assesseur à la pédagogie. Puis, deuxième partie du premier mandat de l'ancien président Yves Jean, J'ai intégré son équipe en tant que vice-présidente en charge de l'orientation et de l'insertion, donc j'étais déléguée. Deuxième mandat de Yves Jean, vice-présidente en charge des formations, et puis aujourd'hui présidente de l'université depuis 2020, 1er décembre 2020, effectivement en bonne position pour un deuxième mandat, ce qui me réjouit évidemment. On a beaucoup travaillé à la question de l'égalité femmes-hommes, on y reviendra, et donc ravi de poursuivre l'action dans ce domaine, mais dans tous les domaines aussi que nous avons abordés au cours de ce premier mandat. Peut-être quelques mots sur ma fonction d'enseignant-chercheur, je vous en ai absolument pas beaucoup parlé, donc psychologie, professeur des universités. J'ai pris beaucoup de plaisir à enseigner la psychologie du développement auprès des étudiants. Malheureusement, mon parcours m'éloigne des étudiants en matière de formation, à mon grand regret, j'ai envie de le dire comme cela. Et puis en matière de recherche, je suis membre du Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage, qui est un laboratoire labellisé CNRS en partenariat avec l'Université de Tours. Et en fait, je travaille sur la question de l'apprentissage du langage chez l'enfant. L'enfant qui fonctionne bien dans un développement typique et l'enfant qui dysfonctionne à travers des pathologies comme les DIS que vous connaissez probablement ou encore le trouble du spectre autistique où on voit des difficultés langagières importantes et donc je travaillais dans cette dynamique-là.
Et du coup pour rester là-dessus, est-ce que quand vous êtes présidente de l'université, vous avez quand même du temps pour vous consacrer à vos recherches et à l'enseignement ?
Alors malheureusement, j'ai envie de le dire comme cela, vraiment, j'ai tenté la première année de la présidence de garder un cours avec les licences 3 de psychologie parce que c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup, d'autant plus que c'était un cours qui les amenait vers, qui les sensibilisait à mon domaine de recherche. Et malheureusement, mon agenda qui est chamboulé en permanence avait un impact complètement négatif sur l'annulation de cours, par exemple. Donc j'ai préféré arrêter. Et concernant les recherches, malheureusement, c'est la même chose. Je ne travaille plus du tout. D'ailleurs, j'ai rendu mon bureau à la MSHS et je suis à temps plein présidente de l'université.
Pour rebondir là-dessus, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être présidente de l'université et est-ce que vous l'avez vraiment choisi ?
Alors, probablement, contrairement à beaucoup d'hommes, j'y pensais pas en me rasant le matin, ça c'est certain, vraiment. Non, en fait, c'est une histoire de vie, c'est des rencontres. C'est un ancien président, Yves Jean, qui à un moment donné a pensé pour moi que je pouvais prétendre à la présidence de cette université. Je n'y pensais vraiment pas, absolument pas. Je me voyais bien pour un nouveau mandat de vice-présidente en charge des formations, mais certainement pas pour être présidente. Et puis les rencontres avec la communauté universitaire, que ce soit enseignants, enseignants-chercheurs, BIATS ou étudiants et étudiantes, avec des témoignages m'incitant à aller porter cette université, vraiment. Hein, donc j'avais vraiment des rencontres heureuses. Et puis une méthode de travail que j'avais envie d'appliquer. Je suis très soucieuse de l'humain, je crois que je peux le dire comme ça. Pour toute la communauté universitaire, il était important pour moi de mettre une touche d'humain dans cette gouvernance et repenser les choses de cette façon-là. Donc en fait, vraiment, je pense qu'on ne naît pas président ou présidente d'université, on le devient. Et je crois que c'est une trajectoire liée à des rencontres, liée à des responsabilités qu'on a pu exercer auparavant. Et puis il y a une opportunité. Vraiment, est-ce que je me sentais capable de le faire ? Pas vraiment au moment où on me l'a proposé. En revanche, aujourd'hui, est-ce que je suis compétente pour entamer un deuxième mandat ? La réponse est clairement oui. J'ai grandi, j'ai appris beaucoup de choses, je sais ce que je peux poursuivre et ce que je souhaite arrêter, ça c'est sûr, et puis on gagne en expertise sur tous les domaines. Ça c'est vraiment, ce premier mandat, c'est ça en fait.
Merci beaucoup.
Madame Laval, vous êtes la première femme présidente de l'Université de Poitiers. Qu'est-ce qui est différent lorsqu'on est une femme présidente de l'université ?
Alors, je ne sais pas s'il y a des différences, et je pense que c'est plutôt lié à la personnalité, que ce soit un homme ou une femme, hein, moi peu m'importe. Il y a des orientations, il y a des ambitions, il y a des valeurs, et c'est ça qui est le plus important, je crois, indépendamment du genre. C'est la conviction qu'on y donne, c'est l'envie qu'on y donne, et c'est la manière de travailler avec une équipe. On n'est pas seul hein, quand on est président ou présidente d'université. On est entouré d'une équipe à qui on confie des dossiers, avec qui on travaille en toute confiance et en toute transparence. Et c'est ce travail collaboratif au sein de l'équipe, au sein des directions de composantes, au sein des directions de laboratoire, en lien avec les étudiants et les services, bien entendu, qu'on avance. Donc on n'avance pas seul. Et encore une fois, je ne pense pas que ce soit lié à une question de genre, même si quand même je déplore hein, à l'échelle nationale le nombre de femmes présidentes au regard du nombre d'hommes présidents.
Et effectivement, les statistiques parlent d'elles-mêmes. L'Association pour les femmes dirigeantes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, AFDESRI, de son petit nom, note en 2021 21% des universités qui sont présidées par des femmes, contre 79% par des hommes. De plus, moins d'un tiers des postes de direction des organismes de recherche est confié à des femmes. Et parmi ces femmes dirigeantes, seulement 15% sont présidentes et PDG d'organismes de recherche. La raison à cela n'est pas seulement due au hasard, comme l'explique très bien juste après Madame la Présidente.
Je pense qu'on a peur d'y aller. Moi, si on me l'avait pas, si un jour on m'avait pas pointé du doigt que j'étais capable de le faire, je ne l'aurais pas imaginé de moi-même. Ça, c'est une certitude. Donc, probablement lié à un manque de confiance, très certainement. Mais aujourd'hui, après 4 ans, je le dis très sincèrement, hein, je me sens apte à un deuxième mandat et compétente pour un deuxième mandat.
Je me permets d'intervenir ici pour présenter Madame Ranou, qui accompagnait Madame la Présidente durant cette interview. Depuis 2021, elle est chargée de mission égalité-diversité pour l'ensemble de l'université. Entendons maintenant son avis sur la question.
Je pense que tu as déjà donné un élément de réponse sur le caractère un peu différent à l'origine d'une candidature, selon qu'on est homme ou que l'on est femme, comme tu l'as dit très clairement, ou comme vous l'avez dit, Madame la Présidente. Une candidature féminine se fait très souvent parce qu'elle est portée, encouragée. Ça n'est pas un mouvement spontané, parce qu'il y a toutes ces représentations qui nous structurent, hein, les stéréotypes qui nous façonnent. Et le premier réflexe d'une femme lorsque on envisage une candidature à un poste à responsabilité, c'est « Oh mais je ne vais pas savoir faire, je n'ai pas les compétences requises pour ou pas assez pour », ce qui n'est pas exactement le même type de réaction du côté masculin. Donc oui, il y a bien une différence de ce côté-là. Et puis j'ajoute encore un deuxième élément. Virginie Laval est non seulement la première présidente, mais c'est la première femme candidate à ce poste à l'Université de Poitiers, ce qui dit beaucoup aussi. Hein.
Et d'ailleurs, en plus de votre titre de présidente, le décret du 29 décembre 2023 vous a nommée chevalière de la Légion d'honneur. Cette distinction récompense vos 28 ans de service au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche. On a regardé un journal qui s'appelle La Dépêche, qui recense en 2010 près de 93 000 membres de la Légion d'honneur, et parmi eux, seulement 10% étaient des femmes. Et pour trouver la première femme nommée chevalière de la Légion d'honneur, on a dû remonter jusqu'en 1851 lors de la nomination de Marie-Angélique Duchemin. Et du coup, Madame Laval, on se demandait s'il y a eu des obstacles auxquels vous avez dû faire face dans votre parcours, notamment jusque cette Légion d'honneur.
En fait, c'est pas toujours évident, effectivement, de se faire une place dans le monde universitaire. Quand on est une femme, peut-être aussi quand on est un homme, parfois, hein, je veux surtout pas stigmatiser ce que je suis en train de dire là. Moi, j'ai rencontré des difficultés, effectivement, dans ma carrière d'enseignant-chercheur, mais sans citer quiconque, dans le domaine de la recherche et à cause d'une femme. Donc vous voyez, c'est un vrai obstacle pour moi. J'ai failli quitter le métier d'enseignant-chercheur, j'ai renoncé, j'ai failli arrêter aussi de venir dans mon laboratoire de recherche. Et en fait, il y a eu un esprit d'équipe qui m'a protégée quelque part. Et là, il y avait des hommes et des femmes. Et qui m'ont redonné l'envie d'eux, qui m'ont redonné confiance à nouveau. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être restée dans cette belle institution qui est l'Université de Poitiers. Mais des obstacles à proprement parler, excepté effectivement des questionnements qu'on peut avoir sur est-ce, quand on accède à des responsabilités, est-ce que je suis capable de ? Ça, c'est sûr. C'est des obstacles que beaucoup de collègues doivent rencontrer je suppose, mais des obstacles en tant que tels, non. Et la Légion d'honneur, c'était vraiment un très beau moment. Un très, très beau moment.
Mais du coup, c'est plus une histoire sociétale et en tant que femme, de se dire, est-ce qu'on est capable d'avoir cette responsabilité-là ?
Pardon, je pense que vous avez raison, Catherine l'a clairement dit tout à l'heure. C'est pas naturel, en fait, chez une femme, je crois, hein, de se dire d'emblée qu'on est capable et qu'on va gagner et qu'on va réussir. Non, on s'interroge d'abord sur nos compétences avant de s'engager sur quelque chose. On s'inquiète. Enfin, moi, j'étais très inquiète hein, lors de la première élection. J'ai beaucoup travaillé et je crois que les femmes vous le diront plus que les hommes. Moi, j'ai énormément travaillé l'ensemble des dossiers. J'avais un domaine d'expertise que je connaissais par cœur sur le bout des doigts, c'était la formation. Parce que j'étais VP formation, le reste, la recherche, d'un point de vue macro, la gouvernance, les RH, les finances, c'était des domaines que, évidemment, dans lesquels j'avais baigné parce que j'étais au bureau dans l'ancienne équipe. Mais c'était quand même pas mon domaine d'expertise. Donc j'ai énormément travaillé pour combler, pour comprendre, avoir des arguments, avancer dans une dynamique X, Y ou Z. Et je crois que c'est une marque de fabrique, ça c'est clair. Le travail.
Merci. Cette première partie révèle déjà des éléments très importants des inégalités hommes-femmes au sein de l'enseignement. Même dans l'université, censée être pourtant un endroit précurseur dans les remises en question, la haute hiérarchie reste majoritairement occupée par des hommes. Et si l'on pourrait simplement se dire que cela dépend de la personnalité et non du genre, ce que Madame Laval nous a confié nous amène à repenser ce sujet. En effet, de nombreuses études ont montré que les femmes étaient à la fois sujettes à un mouvement d'autocensure, à cause notamment du fait qu'on attribue souvent les valeurs de leadership aux hommes, par exemple, mais elles sont aussi sujettes à des stéréotypes de genre, attribuant des compétences spécifiques aux différents sexes. Heureusement, du fait notamment de nombreuses associations féministes, les temps changent et de plus en plus de femmes, à l'image de Madame la Présidente, arrivent à briser ce plafond de verre. Ce n'est toutefois pas abouti quand l'on sait qu'elle était la seule candidate depuis la mise en place des élections en 1971. Et au-delà de la hiérarchie, c'est aussi au niveau des étudiants et étudiantes et des membres du personnel que les inégalités persistent, comme l'a expliqué Lilian en introduction. Pour remédier à cela, l'Université de Poitiers a lancé un plan d'action pluriannuel en 2023. Madame Ranou nous en dit plus sur le sujet.
Alors, pour répondre à votre état des lieux qui est juste hein, sur la répartition femmes-hommes, quels que soient les domaines, population étudiante, personnel BIATS et personnel enseignant ou enseignant-chercheur, ce que vous dites de l'Université de Poitiers, vous pouvez le transposer dans tous les établissements du supérieur de l'Université française, voire au-delà. Ça veut dire que, bien évidemment, l'université est travaillée par les mêmes stéréotypes, les mêmes représentations que ce qu'on trouve ailleurs. Que, par exemple, les étudiantes se sentent moins légitimes que les étudiants à s'inscrire dans certaines filières. Qu'on a découvert que ça peut être parfois vraiment difficile d'être une étudiante dans un monde très peu mixte. Il y a des formations où elles sont tellement minoritaires que le quotidien devient une épreuve. Donc il faut vraiment sensibiliser aussi les équipes pédagogiques à cela, que, éveiller les consciences un peu partout. Essayer de travailler sur les représentations et faire comprendre aux étudiantes qu'elles sont les bienvenues partout. Mais en fait, nous sommes en bout de course. Il faudrait commencer quasiment à la sortie du ventre maternel, déjà que les chambres ne soient pas roses ou bleues, que les jouets ne soient pas distingués entre les jouets de filles et les jouets de garçons, qu'à l'école maternelle, les petites filles puissent avoir autant d'espace que les petits garçons, et ainsi de suite. Donc, c'est compliqué. On s'y attelle, hein, mais avec le sentiment qu'on a une toute petite cuillère pour un grand océan. Donc, on travaille à sensibiliser sur les questions de stéréotypes. On travaille fortement sur les questions de violences sexistes et sexuelles parce que c'est finalement une des conséquences hein, du sexisme de la société, ces violences sexistes et sexuelles. On travaille à sensibiliser les collègues, à essayer de faire bouger les lignes du côté des recrutements des enseignants-chercheurs. Chaque année, au moment, alors peut-être connaissez-vous un peu comment ça se passe, il y a des comités de sélection qui sont formés ad hoc pour tel ou tel concours. au moment où on reçoit les présidents et vice-présidentes des comités de sélection, depuis 3 ans, je faisais une présentation chiffrée par section CNU. Vous allez recruter dans cette section un professeur ou un ou une maître ou maîtresse de conférence. Voilà les chiffres à l'Université de Poitiers. À l'Université de Poitiers, il y a tant de femmes et tant d'hommes, côté maître, maîtresse de conférence, côté professeur. Et la présentation devant tout le monde, c'est parfois cruel. Hein, quand on a 0 femmes en catégorie professeur, bon, les collègues ont bien conscience que ça ne peut pas rester en l'état, quoi. Sauf que voilà, c'est des montagnes à soulever parce que les candidatures sont évidemment en nombre plus restreint du côté des femmes, parce que les doctorantes elles-mêmes sont en nombre plus restreint, et ainsi de suite. Vous voyez qu'on remonte à chaque fois à la source. Donc c'est un travail de Sisyphe qui va continuer pendant des années. Mais il ne faut pas se décourager, il faut continuer. Et pour les personnels BIATS, il y a tout un travail aussi de sensibilisation des jurys qui est fait pour veiller à limiter les biais dans les recrutements. Voilà. Mais il y a un travail mais énorme à fournir. Et surtout, le point sensible, c'est qu'il faut veiller à ce que nos façons de faire et nos propos ne touche pas que ceux qui sont déjà sensibilisés à ça, auquel cas, bon, on reste toujours entre nous et tout va bien, mais s'élargissent à celles et ceux qui ne sont pas forcément conscients des choses, voire commencent à toucher ceux qui sont hostiles. On a quand même entendu des discours en disant « Bon, c'est bon, maintenant, les choses sont réglées, quoi. Avec ces histoires-là, c'est plus la peine, quoi. Puis maintenant, vous faites de la discrimination contre les hommes. » Bon, alors il faut réexpliquer des choses, que ça fait quand même plusieurs centaines d'années que les femmes doivent justifier de leur présence dans la société, et que là où il y a la possibilité de donner des responsabilités, ben, il faut le faire, mais que ça ne se fait pas tout seul. Mais donc il faut savoir adapter le discours de façon à être à la fois efficace, sans faire que les portes se ferment de manière violente, parce qu'il y a une hostilité que l'on suscite. Donc c'est toute une stratégie. Je ne dis pas qu'on a toujours réussi, hein, mais disons que c'est un peu, c'était mon objectif. Moi, voilà.
Donc en plus de ce plan, vous avez créé en 2020 le poste de chargé de mission égalité et diversité. Et donc ma question liée à ce poste, c'est: pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a été créé et les missions plus précises de ce poste?
Donc 2021, un constat très fort après un an de gouvernance. L'Université de Poitiers était très en retard dans le paysage national, hein, sur des questions notamment de discrimination, de violence sexiste et sexuelle. Et puis une collègue très impliquée, Catherine Ranou, donc qui était présidente du CAC restreint. Je ne sais pas si vous, je sais pas si vous savez ce que signifie conseil académique restreint, qui gère toutes les questions de promotion, de primes, donc des questions très sensibles qui touchent directement notre communauté universitaire. Et Catherine a vraiment les qualités pour porter ce discours, ce travail. C'est un travail de fourmi, hein, que de décider que tel collègue aurait une prime et pas un autre, avec des critères transparents, une méthode de travail transparente, comme j'aime en fait. Et je me suis dit que les qualités qu'elle avait pour porter ce conseil académique, elle serait parfaite en fait pour être la mission égalité diversité, avec beaucoup de retard, hein, vraiment accumulé par l'Université de Poitiers, et en un temps record en fait, en l'espace de un an. Elle a monté la plateforme de signalement pour les violences. Ouais, enfin, tu as porté politiquement la plateforme de signalement, hein, c'est pas rien, c'était un pas énorme en avant, on l'avait pas. Alors d'autres universités ne l'avaient pas, mais d'autres l'avaient. Et on avait pris quand même beaucoup de retard. Et puis la question du plan, du premier plan égalité monté par politiquement par Catherine aussi.
Le premier plan 2021-2023, quand j'ai pris mes fonctions, il avait été Je crois qu'il avait été voté en avril et moi je suis arrivée en poste en septembre. Après, c'était sa mise en musique. Et ensuite, quand il est arrivé à échéance, on a fait le deuxième plan. Nous en sommes à notre deuxième plan d'égalité.
Mais en fait, le premier travail porté par la chargée de mission égalité-diversité a été la mise en place de la cellule de signalement, un énorme travail, hein, parce que derrière une cellule, il y a des femmes et des hommes. Il y a des capacités à écouter, il y a des capacités, il y a de l'empathie forcément. Et donc tout un travail de formation d'abord de la chargée de mission. Et puis on a égrené, constitué un groupe autour de la cellule qui ont été aussi formés à l'écoute. Et puis l'inscrire dans un circuit ensuite. Oui, il y a tout un panel en fait dans le dispositif de signalement, donc qui peut aller à une simple convocation et tirage d'oreille, si je peux le dire de cette façon, jusqu'à des conseils disciplinaires. Donc ça peut aller très très loin pour les étudiants et les étudiantes, mais pour les enseignants et les enseignantes. Donc personnel, je veux dire, pardon, pas qu'enseignants et enseignantes. Donc c'est vraiment deux voies très importantes, hein, et depuis, alors le bilan, Catherine, elle pourra vous le donner si vous avez besoin de chiffres. Mais il est tout frais, oui, effectivement. Mais c'était important pour notre communauté universitaire.
Donc, vous en avez parlé, mais...